Les invités de Marc ce matin. Vous savez pourquoi c'est les invités de Marc? Tout simplement parce que le Seigneur Jésus est en eux. Vous le voyez ou pas? Pas encore. Ça, c'est un... Je te dis, le verre à moitié vide. Tu vois? Mais on peut prier pour lui. Voilà, on a passé vraiment un bon temps déjà hier ensemble. On était avec les... Ça va, les jeunes? Vous êtes tous là? Levez-vous ceux qui étaient là hier soir. Allez, ouais, il y en a encore au milieu aussi. Ouais, ouais. Vous pouvez accueillir Mathieu et Mélissa, comme ça les autres vont être convaincus qu'ils sont envoyés par le Seigneur. Voilà. La bonne nouvelle... La bonne nouvelle, peut-être des fois, quand on présente ce qu'on vit aux jeunes, on se dit « ouais, mais ça, c'est pour les jeunes ». La bonne nouvelle, c'est que Mathieu et Mélissa sont là ce matin, mais mieux que Mathieu et Mélissa. Ce qui est vraiment important, c'est ce que le Seigneur met dans nos cœurs et c'est sa vie. Et c'est lui qu'on a envie d'écouter. C'est lui qu'on écoutait hier soir, c'est lui qu'on écoutait ce matin quand on partageait. C'est lui qu'on écoutait dans ce temps louange et c'est vers lui que nos regards doivent se fixer. Et c'est lui qu'on veut encore écouter maintenant. Amen. Alors on va prier pour ce temps-là et puis je vais laisser Mathieu présenter tout le monde et puis je te laisse conduire après. D'accord ? Voilà, Seigneur Jésus, on veut te bénir, merci pour ta présence parce que, Seigneur, c'est ta présence en nous qui nous fait du bien. C'est ta présence dans chacune de nos vies, Seigneur, qui donne du sens à ce rassemblement ce matin et qui fait que nous sommes l'Église. Seigneur, si tu n'es pas là, il n'y a aucun sens à ce rassemblement, juste des gens qui sont dans un même lieu. Mais parce que tu es là, c'est l'Église. Parce que tu es là, c'est ton corps. Parce que tu es là, Seigneur, tu dis quand plusieurs se rassemblent, Seigneur, tu te tiens au milieu d'eux. Tu dis que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur, et nous croyons que tu es là ce matin, Seigneur, pour nous éblouir de ta gloire, pour nous parler de ta présence, de comment ta présence agit dans nos vies, de comment elle est ce vent violent, on vient de le chanter, Seigneur, qui balaye ce qui n'a rien à y faire. Seigneur, pour que toute ta présence remplisse nos cœurs. Seigneur, je te prie de bénir Mathieu, Mélissa, Ruben. Merci de nous les avoir prêtés pour ce week-end. Merci aussi de donner à Mathieu ce matin vraiment toute la simplicité. Seigneur, de partager tout ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Amen. Amen.
Je te laisse. Bonjour à tous. Ça va bien? Ruben, tu peux rester. Mélissa, tu peux te rasseoir, te poser. Mélissa, c'est ma femme. Je suis très fier qu'elle soit là avec nous ce matin. Je suis très heureux d'être avec vous. Vous ne me croyez pas, hein, vous avez du mal à me croire. Non, je suis vraiment heureux d'être là. Je voulais vous dire en commençant, mais trop souvent j'oublie ce que je dois dire au début. Je voulais vous dire bonjour l'Église. Vous allez bien? Est-ce que le Seigneur est avec nous ce matin? Est-ce que vous l'avez ressenti ce matin? Il est au milieu de nous. Amen. Il est celui qui nous unit tous ensemble. Amen. Alors bonjour l'Église. J'aime votre bâtiment, je disais à Serge en rentrant, vos poutres sont super belles. Je suis en pleine rénovation d'une maison et il y a des poutres, elles sont pas comme ça, elles sont plus vieilles, 1911. Elles ont de l'âge, mais celles-là sont vraiment belles. Ce lieu est beau, mais encore plus beau que ce lieu, vous êtes beau. Vous pouvez vous tourner vers votre voisin, votre voisine, surtout les couples mariés, dites « tu es beau ». Tu es beau, tu es belle. Ou alors mon frère, ma sœur en Christ. Dans l'amour du Seigneur, je te dis « tu es beau ». Tu es belle. Hein ? Il y en a qui disent plus que « tu es beau, tu es belle ». Hein ? Tout de suite, ça part en discussion. On reconnaît les dragueurs. Je voulais vous apporter également les salutations de l'Église dans le Nord, là d'où je viens. C'est l'Église Porte Ouverte Chrétienne du Pével. On est une des églises partenaires de la PO de Mulhouse. Et donc je voulais vraiment vous apporter les salutations de l'Église là-bas, qui vous salue, qui vous transmet leur amitié, leur amour également. On fait partie de la même famille. Et j'aime venir dans des lieux différents et me rendre compte qu'on fait partie de la même famille. Amen. Que le Seigneur est le même dans le Nord qu'ici. Amen. Ouais. Il est le même en Alsace qu'ici. Il est le même aux États-Unis qu'ici. Amen. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Amen. Ah là 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 là. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Moi, j'aime bien quand les gens répondent un petit peu, ok? J'aime bien qu'il y ait du répondant, qu'il y ait du amen, que vous êtes avec moi, ok? Donc, je vais compter sur vous pour être au taquet, comme dirait. Je ne sais pas si les jeunes, ils disent ça encore. Hier, je disais à Serge, je suis en train de raconter ma vie, il ne faut pas que je me laisse avoir, mais hier, je disais à Serge, j'aime discuter avec les ados et leur demander comment ils discutent aujourd'hui. Et du coup, hier, j'ai réussi à passer un petit mot d'adolescent. Comme ça, ils se sont tous dit, ouais, lui, il est jeune. J'aurais passé le mot crush. Là, tous les anciens disent, qu'est-ce que c'est ce truc? Ils pensent au crash, ils pensent à tout ça. Mais non, je parlais de crush. Crush, c'est être amoureux, c'est être, avoir un coup de foudre. C'est quelque chose. Donc, j'aime les mots un peu jeunes. Donc, vous m'excuserez si des fois, je sors des mots un peu jeunes. Vous me rattrapez, vous me faites un signe, vous me dites, j'ai pas compris. Bref, j'arrête de raconter ma vie. J'irai un peu plus loin après, je vous raconterai un peu mon témoignage. Mais j'ai demandé à Ruben, qui est venu avec nous, on peut l'encourager, l'applaudir. Et... Je me suis dit, je n'apporte pas Ruben juste pour qu'il traîne tranquille, assis. J'ai dit, je vais l'utiliser. Donc je lui ai demandé d'apporter un petit témoignage ce matin. Et donc je lui laisse la place.
Bonjour. Je m'appelle Ruben, j'ai 16 ans et je suis né dans une famille chrétienne. Donc j'ai longtemps confondu être chrétien et être enfant de chrétien, ce qui m'a joué beaucoup de tours jusque-là. Et quand j'ai découvert ça, j'ai énormément progressé avec Dieu. Et récemment, j'ai déménagé, je suis arrivé dans l'église porte ouverte de Mulhouse, enfin, de Flin. Ouais, et donc je suis arrivé et il y avait un groupe de jeunes, mais je voulais vraiment pas y aller et ma mère me forçait. Et moi, je voulais vraiment pas. Donc du coup, je fais du basket, je fais du sport. Et j'aime bien tester Dieu à travers le sport. Et un moyen simple et efficace que j'ai trouvé, c'est « Seigneur, si je mets ce panier de basket, si je mets le panier, je vais au rassemblement de jeunes. Si je le mets pas, j'y vais pas. » Donc déjà, il faut savoir que je suis de mauvaise foi. Du coup, je me suis bien éloigné du panier de basket. J'ai pas pris mon élan. J'ai fait un shoot, mais n'importe comment, et c'est rentré parfaitement. J'ai pas... mais je suis incrédule, du coup, j'ai fait, bon, c'est peut-être un coup de chance. Du coup, j'ai fait, Seigneur, celui-là, je le mets, j'y vais pas. Donc, faut savoir que, pour savoir si j'y allais, en fait, derrière, j'avais un match de basket, et donc, c'était soit la réunion de jeunes, soit le match de basket. Je devais choisir. Donc j'arrive, je me rapproche bien comme il faut, je fais le meilleur shoot possible que je puisse faire, et malheureusement je le loupe. Donc même après ça, étant mauvais, et bah, je décide de pas y aller, et finalement de prioriser le basket à l'église et au groupe de jeunes, parce que j'avais vraiment pas envie d'y aller, et parce que j'étais nouveau en fait, je savais pas à quoi m'attendre et à quoi affronter. Et donc du coup je décide de pas y aller et d'aller à mon match de basket. Donc faut savoir que j'étais content en arrivant, j'espérais tout ça, j'attendais beaucoup de ce match. Et au final, j'ai joué 5 minutes, je me suis blessé et j'ai fait n'importe quoi. Ce qui m'a valu d'ailleurs des excuses auprès de plusieurs joueurs. Et franchement, j'ai été humilié devant tout le monde et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis réfugié dans le basket alors que j'aurais pas forcément dû. Et deux semaines plus tard, l'occasion s'est représentée et là je me suis dit non. Une fois, pas deux, il faut que j'y aille. Et là, j'ai pas le choix. Donc il n'y a pas eu de test avec Dieu. J'y suis allé et franchement, le temps à l'église m'a fait énormément de bien. Et après, après ça, une semaine après que je sois parti à la réunion de jeunes, j'ai encore eu un match. Et cette fois, j'ai pu y aller parce qu'il n'y avait pas de réunion de jeunes. Et là, franchement, c'était vraiment le meilleur match de ma vie. Donc clairement, ça... Quand il faut faire, Dieu nous pose beaucoup de choix et si Dieu nous dit fais ça, il faut le faire parce que il a un plan pour nous et si on veut pas le faire, de toute façon ça s'accomplira et on se fera juste du mal un peu plus. Merci.
Pour ceux qui font du sport, si vous voulez réussir, priez. Les paniers rentrent tout seuls après. Je m'appelle Mathieu Moulin et je suis fils d'un papa qui est pasteur. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi, je disais aux jeunes hier, je suis né entre deux pages de Bible. Mon papa me racontait les histoires de David et Goliath dès mon enfance. Il me racontait, pour m'endormir, ce genre d'histoire. Il me parlait de Salomon, il me parlait de tous les héros de la Bible, Daniel dans la fosse aux lions. Toutes ces choses-là, j'ai grandi avec ça. Donc, j'ai grandi comme ça. Mes parents ont été missionnaires au Canada pendant 20 ans. Je suis né au Canada, j'ai grandi, j'ai fait mes 6 premières années au Canada. Puis après, on est rentré en France, dans le nord de la France. Ça fait un sacré changement. Et puis, j'ai grandi comme ça. Mes parents, au début, étaient dans une église, l'église de mon oncle, pardon. Et servaient dans cette église. Et puis, à un moment donné, il y a eu des petits problèmes. Et puis, il y a eu une séparation. Et donc, mes parents se sont retrouvés juste à la maison. Mon père était à ce moment-là vraiment brisé parce que la séparation s'est vraiment pas bien passée et ça a été vraiment difficile. Et puis Dieu a tranquillement travaillé son cœur. On a commencé à se retrouver à la maison. Alors on a commencé un groupe de maison. Je sais pas si vous faites des groupes de maison ici. Ouais, ce genre de choses où vous vous retrouvez dans la maison tranquille. Ben lui, il a commencé un groupe de maison à la maison. Et alors, ce qu'il y a de bien dans une famille où il y a 6 enfants, c'est que tout de suite, on a un bon petit groupe. Alors, il y avait nous et une autre famille. On se retrouvait. Et puis tranquillement, le Seigneur a commencé à faire des choses, à ajouter des gens. Et puis, tranquillement, l'église dans laquelle on est aujourd'hui est née. On est devenu une église. On a trouvé un bâtiment. Et puis, ça a continué à grandir, etc. Et puis moi, là-dedans, je continuais à grandir, à progresser. Et puis, je me considérais un peu comme le bon petit enfant de chrétien. Je disais aux jeunes hier, j'ai jamais fait de grosses bêtises, jamais fumé, jamais pris de drogue. Toutes les grosses bêtises contre lesquelles tous les responsables de jeunes prêchent, j'avais quasiment jamais fait. Donc, je me sentais bien. Et en plus de ça, j'étais un jeune qui était... un adolescent qui voulait aider mes parents. Donc, je servais, on faisait une activité, on fait toujours une activité qui s'appelle Quartier Libre, dans les quartiers où on va prendre soin des enfants des quartiers. Et j'ai commencé super jeune, j'avais peut-être 15 ans, 14-15 ans, et je commençais à faire Quartier Libre. Je servais à la louange, je jouais de la batterie, je chantais même pendant que je faisais de la batterie. C'était une bonne époque. Maintenant, j'ai une guitare à la place de la batterie. Ça me manque un peu, la batterie. Bref. Et donc, je servais dans l'église. On faisait des réunions de prière. Vous avez des réunions de prière ici? Qui vient en réunion de prière ici? Ah, ok, pas mal. Nous, quand on faisait des réunions de prière, c'est une église qui commençait. Quand on faisait des réunions de prière, on se retrouvait. Notre église, c'est un temple. Un peu comme les temples protestants. Vous voyez, avec des gros bancs. Il n'y a pas de décoration. C'est très, très sobre. Et on se retrouvait là. Et puis, c'était simple, les réunions de prière. On se retrouvait, il y avait mon père, il y avait ma mère et il y avait moi. On était 3. Et souvent, on s'est retrouvés à 3. 3 personnes. Et moi, j'étais là. Et puis, souvent, ma mère me disait, Mathieu, toi, t'es fidèle, Mathieu. T'es fidèle, t'es présent, t'es là avec nous, tu nous soutiens. Et puis, je servais dans l'église, j'étais présent, j'étais là. À un moment donné, j'ai fait des études, j'ai fait une fac de sport, et puis ça ne s'est pas bien passé. Mon rêve, qui était de devenir prof de sport, a été brisé. Et puis j'ai décidé de partir et de prendre une année pour le Seigneur. J'ai pris une année sans savoir que cette année, que le fait de prendre une année pour le Seigneur serait pour moi le changement dans ma vie qui ferait que ça ne serait pas juste une année pour le Seigneur, ça serait une vie entière pour le Seigneur. Donc j'ai commencé, j'ai fait cette année, j'ai été dans un collège biblique et puis j'ai pris une année là-bas et ça a complètement bouleversé ma façon de penser, ma façon de vivre, ma façon de voir l'Église, ma façon de voir le service de Dieu. J'ai compris que pendant toutes ces années, j'étais là par habitude, je faisais par habitude, je venais à l'Église par habitude, par soutien pour mes parents. Puis quand Dieu a changé ma vie et que j'ai appris à lui abandonner ma vie, j'ai compris que désormais, je voulais servir Dieu. Je voulais être fidèle devant Dieu. Et c'est lui et seulement lui à qui je voulais plaire. Et ça, ça a changé ma façon de vivre. J'ai arrêté de servir juste pour servir. J'ai commencé à servir Dieu. Ça a changé ma façon d'être. Ça a changé ma façon d'appréhender l'Église. Avant, si on me faisait une remarque, ça me brisait. Maintenant, on me fait une remarque. Et ce que je me dis, c'est je me dis, Seigneur, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je me suis donné pour toi. Si ça s'est pas bien passé, si les gens l'ont pas bien pris, c'est pas grave. Moi, je me suis donné entièrement pour toi. J'ai tout donné pour toi. Et ce que je fais, je le fais pour toi. Et je sais que cette mentalité-là, je veux la garder parce que c'est ce qui me gardera près du Seigneur. C'est ce qui me permettra de tenir quand les temps seront difficiles. Quand les temps sont difficiles, c'est ce qui me permet de tenir. Amen. Donc j'ai vécu cette année-là, et puis vraiment ça a été une année fondatrice pour moi. J'ai été baptisé avant, mais pour moi, ma réelle naissance, c'était là-bas. Où le fait d'abandonner ma vie, et ça va un peu aller avec ce que je vais vous partager, le fait d'abandonner ma vie et de la laisser pendant un an, ça a été un déclencheur pour moi. Le fait de choisir Dieu, le fait d'accepter de suivre Jésus, de vraiment le vivre, le fait de renoncer à ma vie. Je partageais aux jeunes, je suis en ce moment avec les jeunes sur une série qui s'appelle « Disciples ». Et je leur disais, quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis assis, je venais de me mettre en couple avec Mélissa, et le premier matin, je me lève et je me dis « je vais aller prendre un temps avec Dieu ». Je m'assois dans un couloir, là, dans le hall d'entrée, je me pose par terre, et là, je commence à réfléchir et je commence à prier et je dis à Dieu, « Dieu, je viens de quitter ma maison, je viens de quitter mes parents, je viens de quitter mes frères et sœurs, je viens de laisser ma petite copine en France. On avait décidé de quasiment pas parler pendant un an. Je l'avais dit dès le début, on ne parlera pas pendant un an, mon année, elle est pour Dieu. On a finalement quand même discuté seulement par lettre pendant un an. J'aime bien dire ça parce que tout le monde se dit, oh, ils sont romantiques. C'est vrai, on était romantiques. Mais j'ai abandonné ma petite copine, mon amoureuse, pendant un an. Je suis arrivé dans un pays qui ne parlait pas ma langue. Mes seules bases, c'était les bases du collège et du lycée. Et autant vous dire que quand on arrive en Angleterre avec nos bases du collège et du lycée, on est comme si on comprenait... Enfin, c'est terrible. C'est comme si vous arriviez dans un pays qui parlait... c'est comme si vous arriviez en Russie. Enfin, vous connaissez Nazdrovia et c'est tout, quoi. Et encore... Moi, c'est pareil, vous arrivez là-dedans, vous ne savez pas dire un mot. Et donc, je suis là ce matin-là et je suis là à dire à Dieu, je suis en train de pleurer parce que je sens que j'ai renoncé à tout ça. Et à ce moment-là, Dieu me met un verset à mon cœur, c'est Marc 10. Marc 10, et il me semble que je voulais peut-être prier aussi, vous l'avez dans... Oh là là, ça met le bazar dans mon iPad ce que je fais là. Luc 14, 26, on peut le mettre. Je ne suis pas du tout l'ordre de ma prédication, ce n'est pas grave. Luc 14, 26, nickel, qui dit « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. » Et c'est à peu près la même chose dans Marc 10. Et à ce moment-là, Dieu me parlait, il me disait « Matthieu, tu renonces ?» à beaucoup de choses pour moi. Et ce à quoi tu renonces, je vais te le rendre au centuple. Je vais te le donner au centuple. Je vais prendre soin de toi. Tu ne seras pas tout seul pendant cette année. Je ne vais pas t'abandonner. Et non seulement tu ne seras pas tout seul, mais ça va changer ta vie. Tu vas recevoir tu vas découvrir une nouvelle famille. Je vais te faire du bien, je vais te faire grandir. Et c'est ce qui s'est passé pendant toute mon année là-bas. Vraiment, je vous encourage à vivre comme des disciples. N'hésitez pas à abandonner ce que Dieu vous demande d'abandonner. N'hésitez pas à renoncer à vous-même. N'hésitez pas à renoncer aux choses qui vous semblent importantes pour Christ, pour suivre Christ. Parce que de faire ça, ça va changer votre vie. Ça va bouleverser votre vie. Amen. Ah là là. J'aimerais vous parler ce matin de la justification dans un premier temps. Est-ce que vous savez ce que c'est la justification? Quelqu'un? Ouais? On connaît le mot? Okay, tout le monde connaît le mot justification. Ouais. On peut penser que c'est des excuses. Une justification, c'est ben, se justifier. Vous savez ce qu'on pense de la justification? Quelqu'un m'a dit ça un jour. Ça veut dire de se trouver des excuses, c'est pas top. Mais dans la Bible, qu'est-ce que la justification? Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur la signification de la justification? la signification du fait d'être justifié. Que Christ nous a justifiés. Être rendu juste alors qu'on ne le méritait pas. Mais honnêtement, moi, enfant de chrétien, fils de pasteur, ayant grandi entre deux pages de Bible, je ne m'étais jamais arrêté sur le sens de la justification. Je savais ce que ça voulait dire, être rendu juste. Ben, en tout cas, j'en avais entendu parler des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, mais je ne savais pas ce que c'était. Et un jour, j'étais dans un groupe de maison avec les jeunes, et puis on avait prévu de parler sur Romains, on étudiait Romains. Et on tombe sur Romains 3, verset 21, et vous pouvez le prendre. Romains 3, verset 21. Ça va, vous y êtes ? Ah, vous l'avez derrière. Ah, c'est de la triche. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant. Au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non. Par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement Dieu des Juifs ? L'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi des circoncis et au moyen de la foi des incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen ? Yes. Ça parle de la justification, ce verset. Et on s'arrête sur ce verset-là avec les jeunes. Et avec nous, il y a une jeune fille qui fait partie des responsables alors je leur laisse discuter. Et puis moi, j'avais rien prévu de spécial. Je laissais vraiment venir les idées comme elles venaient. Et puis on discute de ce passage. Puis à un moment donné, cette jeune fille qui est une fille qui a fait des études un peu de loi. Elle commence à discuter et puis elle commence à dire Mais la justification, c'est dans les termes de loi, quand vous regardez un peu ce que c'est en gros dont la culpabilité ne peut être prouvée. Être justifié, c'est que votre culpabilité ne peut être prouvée. C'est une absence, être justifié, c'est une absence de preuve. Et pour moi, ça a été un éclair une révélation. La justification, le fait que Christ soit mort pour nous, qui nous est justifié par la foi, c'est-à-dire, ça veut dire que alors que nous avions encore des péchés, et ça vous l'avez entendu des tonnes et des tonnes de fois, alors que notre cas semblait déjà jugé, alors que notre avenir était déjà promis, nous étions promis à la mort éternelle, alors que nous étions promis à être loin de Dieu, alors que nos erreurs, alors que nos fautes nous éloignaient de Dieu, alors que nos transgressions horrifiaient Dieu, alors que notre casier judiciaire était long comme le bras devant Dieu. Christ, par sa justification, a effacé toutes nos fautes. Parce qu'il nous a justifiés, il n'y a plus de charge requise contre nous. Notre culpabilité ne peut plus être prouvée. C'est scandaleux. Notre culpabilité ne peut plus être prouvée. C'est vous faites ça devant un jury, devant un juge, mais aujourd'hui c'est impossible. Réfléchissez à ça, pensez au pire criminel que vous pouvez penser si Hitler devait passer devant un juge. Réfléchissez à ça, est-ce qu'on pourrait lui dire « Oh Hitler, tout va bien, il n'y a aucune preuve de ce que tu as fait, tu peux partir libre. Imaginez le bazar que ça mettrait. Imaginez le carnage que ça serait. Moi, je me révolterais le premier. C'est pas possible. Et pourtant, Christ nous justifie par le moyen de la foi en son sang, en son sacrifice sur la croix. Et de ce fait, nos fautes sont effacées. De ce fait, il n'y a plus de preuves de ce que nous avons fait. Vous pouvez oublier, si vous acceptez Christ, vous pouvez oublier vos erreurs. Elles sont effacées. Elles sont lavées par le sang de Jésus. Elles sont jetées au plus profond de la mer. Le diable peut vous le rappeler, mais vous pouvez lui dire, je suis justifié. Jésus m'a tant aimé qu'il m'a justifié. Amen. J'aimerais vous montrer une petite vidéo pour aller un peu plus loin. Cette vidéo parle d'un homme qui s'appelle Barabbas. Vous connaissez Barabbas? Ouais? Oh, vous connaissez bien votre Bible. Dans le Nord, ils ne connaissent pas trop ça. Ils ne hein, connaissent pas aussi bien leur Bible. Si vous êtes... Je savais que Serge et Claude faisaient du bon travail. C'est vraiment un pasteur. Tunaise. Barabbas. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur qui était Barabbas? Non? C'est un gentil garçon. Ça fait partie des choses qu'on lit dans la Bible, comme la justification. Moi, je le dis. Hein. Ça fait partie des choses qu'on lit et on ne fait pas vraiment gaffe. On ne s'arrête pas vraiment. Et là, c'est une vidéo d'un pasteur qui a prêché sur Barabbas et ça m'a vraiment éclairé sur un point de vue que je ne connaissais pas de Barabbas. De toute façon, je le connaissais de nom. Mais souvent, on ne s'arrête pas parce que Barabbas, finalement, il est un peu un gars en plein milieu de l'histoire du siècle. Il est un peu le gars qui se retrouve là, en plein milieu du moment capital de notre existence. Il est là au moment où Christ va sur la croix, au moment du calvaire. Donc souvent, on ne s'arrête pas, on va direct à la croix. Mais regardez un peu ce qu'on peut penser de Barabbas, si la vidéo fonctionne. Ah. Alors sinon, on m'a dit tout à l'heure, si ça ne fonctionnait pas, il faut que tout le monde enlève son Wi-Fi. Donc si les jeunes peuvent enlever leur Wi-Fi de leur téléphone, les anciens, ils ont pas ça. Ils savent pas ce que c'est Wi-Fi. Hein, je rigole, je vous embête. Quelques-uns l'ont. Non, je vous embête. Ma maman a une tablette depuis un bout de temps et j'ai l'impression d'être les services techniques avec elle. Je suis obligé toujours, dès qu'il y a un petit truc, elle vient me voir. Elle me dit, Mathieu, il faut que tu m'aides, j'arrive pas à envoyer ce mail. Mathieu, mon mail, il est bloqué, il n'est pas parti, comment ça se fait? Mathieu, je comprends pas, je suis connecté au Wi-Fi, mais j'arrive pas à aller sur Internet. Je suis vraiment service technique. Alors que j'y connais vraiment pas grand-chose là-dedans, juste, ben, j'ai grandi là-dedans, donc c'est un peu plus facile. Donc c'est pour ça que je me permets de vous chambrer un petit peu. Ça va, ça vient? Il y a la musique déjà. J'ai pris la mienne exprès. Mon papa a prêché sur ça la dernière fois. Non, ouais, ben il a pas prêché sur la Bible, mais il a, bah si, il a prêché sur la Bible, mais il a pas prêché.
We see the story of Jesus going to the cross, and everything seems to kind of be hand in hand, and then there's this one character that seems to interrupt the narrative. His name's Barabbas. We don't even know much about him except that he's a murderer, a leader of an insurrection, a rebel, and why he's even mentioned, sometimes I'm not so sure. It's like, what? This is about Jesus going to the cross. So in this moment, Pilate thinks, I hold the destinies of these two men in my hand. I know the Jews have a tradition that on a holy day, I will release one of the prisoners on death row. Pilate stands on this audacious stage, who now presents Jesus, Son of the living God, versus Barabbas, the thug and rebel. He says, all right, who do you want? This is blasphemy. This has gone too far. There's no comparison. This is a rightful prisoner, a man who should be on death row. He's a rebel against Rome. He leads a rebellion. He murders people. He's a bad man. He's a thug and he's a crook. He deserves the chains and he deserves the crucifixion. Jesus, what has he done but heal, restore, deliver, set free, open blind eyes, open deaf ears, heal the lame and the leper? What has Jesus done? Who do you want? We want Barabbas. Yeah, give us Barabbas. People say, give us Barabbas. The Roman soldiers come up and they put the key in and they unlock Barabbas from his chains and shackles. And he walks down the platform, welcomed by all of his thug friends. Yeah, the people love me. Yeah, that's right. I don't even know who this Jesus guy is, but all I know is my people love me. There seems to be no conscience in Barabbas. There's no record of him turning to Jesus and saying, I owe you everything now, for you have set me free. No, I don't see any of that in Barabbas. And God knew that. Jesus stood there, silent, for he knew the will of the Father. He said, it's fine, Father. Let him have Barabbas. For Jesus knew that the Father would have to treat Jesus like Barabbas so he could treat Barabbas like Jesus. Barabbas thought it was the people that set him free. No, 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 no. It was the love of the Heavenly Father.
Barabbas, c'est vous et c'est moi. Barabbas, c'est chacun d'entre nous. Barabbas, c'est cet homme qui est là sur le chemin de Jésus, qui va sur la croix et qui est là juste pour nous rappeler une chose. Nous sommes les escrocs. Nous sommes ceux qui ont fait les pires choses. Nous sommes ceux qui étaient séparés de Christ. Nous sommes ceux qui étaient séparés de Dieu le Père. Et nous sommes ceux pour lequel Dieu a envoyé son Fils mourir sur cette croix. Nous sommes ces personnes-là. Nous sommes Barabbas. C'est nous qui avons, même si nous n'étions pas là physiquement, mais c'est le péché qui a crucifié Christ. C'est nous qui avons crucifié Christ par nos fautes, par nos transgressions. Pourtant, souvent, on est un peu comme Barabbas. On prend conscience de la justification, on prend conscience que Christ nous a pardonné, que nos péchés sont oubliés, on le remercie pour ça, et on vit par ça en se disant « Merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné ». Souvent, on est dans cette mentalité où on vit pour Dieu et on profite de la justification sans se rendre compte qu'il y a peut-être plus que juste la justification. Mais pas longtemps, un chrétien de l'Église disait « Il doit mettre sa vie en règle. Il le sait. Mais il disait, mais de toute façon, c'est pas grave, Dieu pardonne. De toute façon, c'est pas grave, Dieu pardonne. Pas grave, j'ai des péchés, je fais des erreurs, mais c'est pas grave, Dieu pardonne. Et des fois, on est un peu comme ça, on profite de la justification et on prend, ouais, on profite du don gratuit de Jésus pour nous et mais ce que Jésus veut, c'est, oui, il a donné sa vie, oui, il a donné gratuitement sa vie, son sang, son corps pour nous. On l'a pris tout à l'heure, on s'en est rappelé tout à l'heure en prenant le pain et le vin. Mais la justification n'est pas censée être la terminaison de nos vies. Ce n'est pas une fin en soi. La justification, le fait d'être pardonné n'est pas une fin pour nos vies chrétiennes. Amen. Vous voyez, pour moi, si je pouvais imaginer un peu la justification et mon deuxième point qui est la sanctification, je dirais que la justification est un peu comme un diplôme. C'est un diplôme qu'on reçoit. Par exemple, vous faites des études de médecin et à la fin, vous recevez un diplôme qui vous dit, voilà, ce jour, un tel Mathieu Moulin a passé autant d'années en médecine. Du coup, il est diplômé de la faculté de je ne sais pas quoi, de médecine, il peut désormais exercer. Et puis, on prend, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les cabinets des personnes qui travaillent dans le médical, et ils accrochent ça derrière eux. Vous avez déjà vu ça? La justification est un peu comme ça. On a reçu le pardon de Jésus, on a été accepté par lui, on a compris son amour pour nous, on l'a pris pour nous, on a compris ce que c'était, et puis on l'accroche un peu comme ça sur notre mur. Ça y est, désormais, je suis pardonné. Ça y est, désormais, Dieu ne voit plus mes péchés. Mes péchés sont oubliés. Et c'est vrai. Mais si ce diplôme reste au mur et que nous n'exerçons pas, ça sert à quoi? À quoi sert ce diplôme? Je pourrais aussi l'imager en prenant l'image d'une route. En venant ici, hier, en faisant la route, on a pris notre voiture. Et puis, on a pris l'autoroute. Il y avait deux routes. Au début, Mélissa avait pris la route qui passe par les petits chemins pour ne pas payer de péage. Puis, je lui ai dit, non, on prend la route au péage. Et la justification est un peu comme un péage. Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer sur l'autoroute du ciel. La justification est un peu comme ça. On arrive à un péage et c'est un peu comme si vous avez, je ne sais plus comment on appelle ces trucs-là, où vous passez et ça fait juste pipe et vous n'avez même pas besoin de payer. Au télépéage, ouais, beep and go, il y a plein de noms. Mais c'est un peu comme ça. Le fait d'avoir été justifié et lavé par le sang de Jésus, c'est un peu comme ça. Maintenant, vous arrivez au péage et vous passez, il n'y a pas de problème, personne ne vous arrête, vous n'avez rien à payer. Bon, beep and go, vous avez à payer derrière, hein, il me semble. Mais là, vous n'avez rien à payer. Vous passez le péage et c'est parti, vous êtes en route pour Coulommiers. Bon, c'est pas le ciel encore, mais c'est pas mal. Vous êtes en route pour les vacances. Vous êtes en route pour la Côte d'Azur, je dis n'importe quoi. Il faut passer les péages. Notre péage a été payé par Jésus sur la croix. Nous sommes lavés, sanctifiés, il n'y a plus rien à payer, c'est gratuit, c'est un don, c'est donné, c'est cadeau. Maintenant, si vous arrêtez juste après le péage, à quoi ça sert? À quoi ça sert que Christ ait payé le péage si on continue pas à conduire pour aller jusqu'à la destination que nous avons? Nous devons emprunter la route qui s'appelle sanctification. Et c'est ce qu'un disciple doit faire. C'est ce qu'un disciple doit mettre en place dans sa vie. Un disciple, la première chose qu'il fait, c'est reconnaître Christ comme son sauveur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il marche à sa suite. Vous savez, dans la Bible, on se rend compte, dans le Nouveau Testament, et quand on regarde la vie de Jésus, on se rend compte qu'il y a à peu près deux types de personnes. Ceux qui sont comme les disciples, qui sont tout le temps avec Jésus. Ceux qui vivent avec lui, ceux qui le voient faire des miracles, qui se laissent enseigner par Jésus, qui se laissent reprendre par Jésus. Et qui mettent en pratique. Et puis vous avez la foule. La foule est là, elle suit Jésus aussi, elle est là de temps en temps, elle voit des miracles, elle voit des bénédictions, mais souvent après elle repart. Et j'aimerais que nos églises, que nous en tant que peuple de Dieu, nous ne soyons pas comme cette foule, qui profitons des bénédictions de Dieu, qui venons de temps en temps récupérer un peu de bénédictions. On profite, encore une fois, de ce que Jésus a fait pour nous. Et puis après, on repart. On reçoit un miracle. Et puis après, on repart dans notre vie quotidienne. Et puis, oh, on reviendra dimanche prochain. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Jésus est venu faire sur cette terre, il est venu prendre 12 personnes avec lui, il les a appelées, il leur a dit, venez, suivez-moi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre vous et chacun et chacune d'entre nous. Il veut que nous soyons des disciples qu'il suivons. Et la route que Christ emprunte, c'est la route de la sanctification. C'est celle qui nous amène à faire des choix. C'est celle qui nous amène face à deux possibilités. La première, continuer à suivre Jésus. La deuxième, suivre notre propre chemin. Je disais hier, la route du Seigneur, elle est étroite. Je parlais de ça avec un jeune. C'est sûr que c'est plus facile de dire non, 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 je préfère pas trop mouiller, moi. Je préfère pas trop. Je préfère être assis tranquille à l'arrière de l'église, puis venir une fois de temps en temps le dimanche, et puis répondre à l'appel pour qu'on prie pour moi, que je sois guéri. Et c'est vraiment bien. Mais Jésus veut plus de nous. Les amis, moi je me bats pour voir une église qui n'est pas juste une église consommatrice. Je me bats tous les jours et à chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher pour que l'église de Christ en France ne soit pas une église qui vient consommer, qui vient prendre son bon petit burger le dimanche matin à l'église, sa bonne petite prédication, son bon petit temps de louange et qui repart et rien n'a changé. J'ai soif de voir cette église qui devient une église de disciples, qui devient une église qui n'a pas peur de tenir ferme pour ce que Dieu lui demande de faire. J'ai soif de voir de plus en plus des hommes tenir la place qui est la leur dans le couple. Savoir dire à sa femme, non, là on n'est pas dans la bonne direction. Savoir reprendre ses enfants, leur dire, mon enfant, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais déplaît à Dieu. Voir des hommes qui enseignent leurs enfants. J'ai hâte et j'ai soif de voir de plus en plus des femmes qui prennent leur place légitime au sein du couple. Qui sont là pour soutenir, qui sont là pour prier, qui sont là pour être des qui sont vertueuses. J'ai soif de voir de plus en plus des gens qui sont chrétiens et pas juste parce qu'il y a le poisson sur la voiture à l'arrière. Mais qui par leur vie, par leurs actions, par leurs choix font la différence. J'ai soif de voir ça. Et moi le premier, je veux le vivre de plus en plus. Je sais pas pour vous, mais moi le premier, j'ai envie de vivre ça de plus en plus. Oui, très souvent, je me retrouve face à des situations où je sais pas trop quoi faire, où ma chair me dit « tu devrais plutôt faire ça ». Et je me laisse un peu conduire par ma chair, mais je veux me battre pour ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Au plus profond de moi, je veux prendre les décisions qui plaisent à Christ. Je veux être un disciple. Je veux pas être un chrétien. Je veux plus être le bon petit chrétien Matthieu qui était assis derrière sa batterie, qui servait juste pour servir. Je veux servir parce que je sais que si je sers, je plais à Dieu. Et je veux vous encourager à rechercher ça. Parce que c'est ça le chemin de la sanctification. Le chemin de la sanctification, c'est quoi? C'est de choisir de ne pas laisser traîner son regard sur les choses qu'on ne devrait pas voir. Qu'est-ce que c'est la définition de sanctifier? C'est rendre la sanctification, c'est rendre quelqu'un saint. C'est un chemin. Rendre. C'est pas être saint. C'est rendre, décider, rendre quelqu'un saint. C'est d'être sur un chemin pour la sanctification. C'est sur un chemin. C'est là qu'on progresse. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accusation ce matin. Peu importe où vous en êtes, peu importe si c'est difficile pour vous, si vous pensez être très saint ou pas trop saint du tout, sanctifié à fond ou pas trop sanctifié du tout, peu importe où vous en êtes, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de justification à avoir. Nous sommes justifiés. Nous sommes tous sur un chemin. Certains sont plus avancés, d'autres prennent un peu plus de temps. Certains roulent en Porsche, d'autres roulent en 4L. Mais ce n'est pas un problème, tant qu'on roule. Tant qu'on roule. La sanctification, c'est choisir de ne pas se moquer, de ne pas colporter. C'est choisir d'apprendre à connaître Dieu par la méditation de la Bible, par la prière. C'est choisir d'écouter et d'obéir l'Esprit Saint quand il nous parle. C'est choisir d'aider le pauvre. C'est choisir d'aller faire celui ou celle qui est seul, rejeté. On a tous entendu ça des tonnes et des tonnes de fois. Mais je crois vraiment que ce matin, Dieu nous appelle à choisir et à mettre en place, à mettre en pratique. La foi sans les œuvres est morte. Nous devons apprendre à mettre en pratique, les amis. Que vous soyez jeune converti ou ancien dans l'Église depuis des années, Dieu vous parle ce matin et vous dit, mon ami, mon enfant, ma fille, mon fils, je veux que tu reprennes ta marche en avant. Tu as passé le péage, mais ce matin, aujourd'hui, cette semaine, je veux que tu renclenches la marche avant, la première. Passe la première dans ta voiture. Recommence à avancer. Recommence à m'obéir. Oui, je comprends, les temps ont été difficiles. Oui, tu es passé peut-être par un moment de désert. Oui, peut-être les temps ont été arides. Mais même dans ton désert, où que tu sois, Dieu veut que tu avances. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans la Bible où Jésus vient de se faire baptiser et la colombe est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Premier truc, il va où? Dans le désert. Il n'y a pas longtemps, je prêchais sur ça et je leur disais, et si le désert est un endroit où Dieu te voulait? Trop souvent, on voit les déserts comme une perte de temps. On se dit, oh là là, c'est difficile. Et puis, on est obnubilé par la difficulté du désert dans lequel on est. On ne voit rien d'autre. Mais si, posez-vous la question, est-ce que le désert ne serait pas l'endroit où Dieu veut m'apprendre quelque chose? Et si le désert était l'endroit où Dieu voulait que je vive quelque chose? Et si le désert était l'endroit où Dieu voulait que je sois une bénédiction, un témoin? Peut-être que vous vivez un désert dans votre travail. Peut-être que vous passez par un désert dans votre famille. Peut-être que vous passez par un désert dans vos études. Mais si le désert était l'endroit où Dieu te voulait, et si Dieu t'avait demandé d'être et avait prévu que tu sois dans ce désert, et que dans ce désert, tu fasses une différence, que dans ce désert, tu continues sur la route qui est la sanctification. La route où tu choisis de ressembler à Dieu, c'est le choix de devenir un disciple. La sanctification, et je me notais ça tout à l'heure pendant le temps de louange, la sanctification est une responsabilité, c'est notre responsabilité. Une des mauvaises conceptions qu'on a de l'Église, de la vie de l'Église, c'est qu'on pense qu'il nous faut une responsabilité pour s'impliquer. On pense que quand on est responsable du groupe de louange, alors là, on a quelque chose de particulier. Mais ce n'est pas vrai. Notre première responsabilité, elle est d'être sanctifié. Parce que autant le don de Christ est gratuit pour la justification, autant la sanctification est notre responsabilité à chacun. C'est à chacun d'entre nous de prendre cette responsabilité à cœur et de vivre selon ça. C'est une responsabilité, c'est notre première responsabilité. Et si vous faites ça, vous allez voir Dieu vous donner de plus en plus de responsabilités. Dans les petites choses, commencez à être responsable dans les petites choses. Dans les petites choses dans lesquelles Dieu vous demande d'avancer. Et vous verrez Dieu vous bénir et vous donner de grandir. Trop souvent, quand on pense avoir besoin d'un rôle pour progresser, on ne bouge plus. On stagne parce qu'on attend d'avoir la responsabilité. Mais commencez à vous mettre en route. Commencez à marcher. Commencez à marcher sur cette voie qui est la voie que la Bible nous enseigne de vivre. Mettez en pratique ce que Christ vous dit. Lisez votre Bible. Dieu va vous parler. Et quand il vous parle, faites-le. N'attendez pas. Faites-le. Obéissez. C'est le premier bon caractère qu'a un disciple. La première chose qu'il fait, quand Jésus lui demande de venir, que fait le disciple? Il suit. Il n'attend pas. Il ne réfléchit pas. Il n'est pas en train de peser le pour et le contre. Il n'est pas en train de se dire, ouais, mais il y a mon père qui est derrière, qui est en train de travailler. Il n'est pas en train de dire, mais il y a des poissons là que je viens de pêcher, il faut que j'en prenne soin. Non. Que fait le disciple? Première chose qu'il fait, quand Christ lui demande quelque chose, il se lève, il le suit, il y va. Arrêtons de réfléchir. Trop réfléchir. Regardons ce que la Bible nous dit. Et dans ce que la Bible nous dit, mettons-le en pratique. Et je ne veux pas trop vous donner d'exemples, parce que chacun on a des exemples différents et chacun sait dans quoi Dieu nous demande aujourd'hui d'être sanctifié, de prendre ce chemin. La sanctification, la justification n'est que le marchepied pour la sanctification. Nous avons une route à emprunter. J'aimerais vous partager un témoignage. Il y a quelques temps, j'espère que vous n'allez pas me jeter de pierre. Je suis cheminot, je travaille à la SNCF. Oui, c'est pas bien vu en ce moment. Je me suis retrouvé dans ce boulot parce que j'avais besoin. On s'est marié avec ma femme assez jeune, j'avais un boulot, mais je voulais un boulot plus serein. Et puis on a prié pour ça et c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce job à la SNCF. Donc quand on me charrie tout ça, je le prends bien parce que je sais que c'est une bénédiction de Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez me charrier autant que vous voulez là-dessus. Et donc je suis à la SNCF et ça fait ça fait 3 ans que je suis à la SNCF, que, à l'époque, hein, c'était il y a 2 ans, ce témoignage. Et ça fait 3 ans, et au bout de 3 ans, puisque je suis rentré juste avec le bac, au bout de 3 ans, on me dit, bah, Mathieu, ça fait 3 ans, tu as pris un poste qui était, pas mal élevé, et maintenant, ça fait 3 ans, et comme tu as juste le bac, on est obligé de te faire redescendre. On te rétrograde. Et alors, ça, je le savais depuis le début, ça ne me posait pas de problème, je le savais, c'était dans le contrat au départ, il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont proposé un poste, c'est sûr qui était rétrograde, mais qui était un poste assez intéressant, parce que je me retrouvais dans la ville où j'habite. Donc je prenais mon skate pour aller au boulot. Donc j'étais vraiment à 5 minutes, vraiment trop bien, super. Et au début, on m'annonce ça, on me dit, Mathieu, tu vas avoir ce poste-là. Et non seulement j'avais ça, mais ce poste-là me permettait aussi d'aller dans différentes gares et d'être payé pour aller dans les gares où j'allais. Donc j'avais mon salaire qui allait bien grimper. Vraiment intéressant, et je me disais, je remerciais le Seigneur, c'est vraiment une bénédiction. Et puis il commence à me former là-dedans. Et puis à un moment donné, au bout de 5 mois, ils me disent, Mathieu, on est vraiment désolé, on a fait une erreur. On a fait une boulette. En fait, ce poste-là est sur une qualification, ils appellent ça trop élevé pour toi. Tu n'as pas le droit d'être dessus. Et comme par hasard, ils se rendent compte de ça au 5e mois. Et comme par hasard, si j'arrive au 6e mois, ils sont obligés de me le donner. Comme par hasard. Et donc, ils me disent ça. Ils me disent, du coup, on va te mettre sur un autre poste. OK ? C'est toujours à Douai, la ville où j'habitais. Ce poste-là, on appelle ça, c'est le poste des annonces. En gros, vous êtes assis sur une chaise. Et vous avez un clavier, vous avez 3-4 touches et vous devez appuyer sur ces 3-4 touches pendant mes 8 heures de travail. C'est un super job, vraiment, c'est hyper intéressant. On a vraiment le temps de réfléchir, tout ça, c'est vraiment très encourageant, très challengeant, tout ça. Toutes les choses que j'aime bien, moi je suis assez actif. Donc du coup, d'être assis sur mon siège et à toucher 4 touches pendant 8 heures, c'était vraiment mon grand kiff. Et donc, ils me mettent sur ce poste. Et honnêtement, quand ils me disent ça, moi, ça me casse. Ça me casse. Et puis, je suis quelqu'un qui passe vite à autre chose, qui essaie de passer vite à autre chose. Et qui, voilà, je me dis, je suis chrétien, il n'y a pas de problème, ok, je vais prendre ce poste. Puis je prends ce poste, puis au moment où ils me ramènent ma fiche, mon contrat pour signer, je lis le truc, puis je dis, mais c'est bizarre, vous m'avez noté dans telle gare. Comme gare principale. Et c'est une gare qui est à 45 minutes où j'avais bossé tout au début de mon embauche. Et je dis, c'est bizarre, pourquoi il y a toujours cette gare qui est notée? Puis là, je vois mon chef qui change un peu de tête. Et puis, je vois mes collègues qui aussi changent de tête. Et eux ont un sourire, mon chef devient pâle. Parce qu'il se rend compte que pendant un an et demi à peu près, un an et demi, j'avais travaillé, j'avais au début été dans cette gare, puis après une autre gare. Et que du coup, il me devait 1 an et demi de déplacement. Parce que sur cette feuille était écrit que j'appartenais toujours à cette gare, qui a 45 minutes. Donc lui devient palo. Et je vous dis, mes collègues, je voyais presque les euros défiler dans les yeux. J'appelle une femme qui est adjointe. Chef adjointe, et qui est dans les syndicats. Et je l'appelle, et pas forcément pour avoir de l'aide des syndicats, mais juste pour savoir qu'est-ce que je fais, en fait. Et puis, elle est quasiment... vous savez, les syndicats, ils sont pas potes avec la direction. Hein. Donc, elle saute quasiment au plafond. Mes collègues et elle me disent tous, mais Mathieu, c'est l'occasion de leur rendre tout ce qu'ils nous ont fait depuis tellement de temps. Et honnêtement, ils sont tous là à dire que c'est l'occasion de leur... Il faut que tu en profites et il faut que tu ailles à fond pour leur rendre ce qu'ils nous ont fait à tous. J'étais quasiment le héros pour eux. J'avais rien fait, j'étais un héros. Et puis, elle me dit, ou je ne sais plus, elle ou un collègue qui me dit, mais ce qu'ils te doivent sur 1 an et demi, ça vaut à peu près 10 000 euros. C'est une belle somme. À peu près 10 000 euros. Et moi, bon chrétien, alors ça, je vous dis ça, c'est sur une période de 2-3 semaines, à peu près. Bon chrétien, je me dis, mais mais je veux pas prendre cet argent pour moi. Ils ont fait une erreur, alors je veux pas prendre cet argent pour moi. Et puis je me dis, je vais quand même le prendre. Et puis dans ma tête, je me disais, mais je vais peut-être le partager avec mes collègues. Je vais être sympa. Et puis voilà. Et puis j'avais cette pression des collègues qui me disaient, surtout tu lâches pas, surtout tu te fais pas avoir. Tant que t'as pas signé là pour que l'argent vienne, tu laisses pas tomber. S'ils te disent qu'ils vont te le donner, les crois pas. Il faut que t'aies un mot écrit. Et puis, une autre idée qui est venue dans ma tête, je me suis dit, mais moi, depuis que je suis rentré à la SNCF, je suis rentré là-bas en voulant passer des examens. Donc, je me suis dit, je vais utiliser cet argent comme levier pour qu'il me fasse passer plus rapidement des examens. Et donc, je prends un rendez-vous avec le chef de mon chef et la fille qui gère qui est RH, la RH. Puis, je me retrouve devant eux. On est un vendredi. Et puis voilà, je leur dis, voilà, vous avez fait une erreur. Et je leur dis déjà, la première erreur, vous m'avez arnaqué un peu en me mettant sur un poste qui n'était pas celui qui était prévu. Donc vous m'avez fait descendre de qualification. Donc déjà là, vous avez fait une erreur. Et bon, je comprends que vous ayez pu faire une erreur, mais vous faites une deuxième erreur. Et cette erreur-là, autant la première ne m'était pas favorable, autant la deuxième m'est très favorable. Et donc je leur dis, moi ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez réfléchir et me trouver une solution pour passer tel examen dans ma boîte. Et donc on discute de ça, et puis ils me disent, écoute, on va laisser passer le week-end, on va essayer de trouver des solutions pour voir si tu peux passer cet examen, et puis on se revoit lundi. Le week-end passe, le lundi arrive, et le lundi midi, je suis dans ma cuisine. Je me prépare à aller au travail, je devais être à 14h je crois au travail, et puis ouais, il est midi, je suis en train de faire des pâtes. Ouais, boum, je suis un bon cuistot. Hein. Je fais des pâtes. Et puis, à ce moment-là, je vous dis, cette période dure sur à peu près un mois. Et à ce moment-là, la première fois depuis un mois, honnêtement. Hein, alors, fils de pasteur, responsable des jeunes, responsable de la louange. Première fois en un mois où je me pose dans ma cuisine et je dis, Dieu, dans cette situation, je veux te plaire. Je veux faire ce qui te plaît. Première fois. J'ai attendu longtemps, hein. Mais enfin, je me pose et enfin, j'ai le réflexe de remettre cette situation dans les mains de Dieu. Et au moment où je fais ça, et c'est quasiment instantané, au moment où je dis ça, je sens Dieu qui me dit « Tu ne prends pas cet argent, tu ne touches pas cet argent. » Et alors, j'ai eu un très bon réflexe à ce moment-là, c'est que j'ai tout de suite dit « Ok, si tu me le dis, j'y touche pas. Si tu me le demandes, j'y touche pas. » Et pour moi, c'était tout de suite réglé. Et donc, je vais à mon rendez-vous avec donc le chef, le grand chef, plus celle qui gère les RH, qui est quelqu'un de pas très apprécié, parce que les RH, souvent, ils ne sont pas très appréciés, parce que, en tout cas, la SNCF, ils ne sont pas très appréciés. Et je me retrouve face à eux, et puis je leur dis, écoutez, avant de commencer, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelque chose. Je décide de ne pas toucher aux 10 000 euros que vous me devez. Je leur dis, voilà, moi je suis, vous le savez peut-être, je leur dis, je suis chrétien et je crois en un Dieu qui pardonne. Et parce que je crois en ce Dieu qui pardonne et qui ne profite pas des erreurs que nous avons faites, eh ben je décide de ne pas profiter des erreurs que vous avez faites. Donc je vous pardonne et je ne veux pas toucher à cet argent. Si vous avez trouvé une formation, très bien, mais je ne veux pas utiliser ça comme moyen de pression pour avoir ce que je veux. J'ai mon chef, le chef d'au-dessus, qui me dit, écoute Mathieu, c'est vraiment tout à ton honneur. Et ça ne nous étonne même pas que tu fasses ça. Et puis il me dit, mais tu sais, tu as droit à cet argent. Tu as le droit de l'avoir. J'étais complètement dans les règles pour l'avoir. J'avais juste à faire la demande. Je lui dis, ouais, je sais que j'ai le droit. Mais je refuse ce droit, je refuse d'y toucher. Parce que je veux, alors j'aurais pas dit comme ça, mais c'est parce que je veux être un témoin pour vous. Vous montrer ce que normalement fait un chrétien. Et je quitte cet endroit, je sens que les deux sont, bon voilà, ça va pas plus loin que ça, mais je sens que ça les a touchés. Autant cette femme qui, je pense, est vraiment brisée, parce que honnêtement, elle prend cher souvent. Mais là, de voir que moi, j'ai pas profité de son erreur. Ça l'a touché. Puis je descends, je vais dans mon poste, je retrouve ma chaise. Et sur le chemin, je ne vous explique pas, les amis, j'avais cette impression de sentir Dieu qui était au-dessus de moi et qui avait un smile, mais un sourire. Mais comme rarement je l'ai senti. J'avais ce feeling, ce sentiment de fierté parce que j'avais plus à Dieu. Parce que ma décision, le fait de renoncer à cet argent, le fait de faire quelque chose qui lui plaisait vraiment. Alors, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'à la SNCF, il y a un truc qui s'appelle Radio Ballast. C'est tout va très très vite à la SNCF. Vous faites quelque chose et d'un coup, tout le monde est au courant, sauf les trains. Mais en tout cas, dans tout ce qui est ragot, etc., ça va très très vite. Et je sors de là, déjà j'arrive dans le poste, il y a mes collègues qui sont là, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je leur dis « Ben, j'ai renoncé à l'argent et je leur explique. » J'ai la sous-chef, la syndicaliste qui m'appelle et elle me dit « Mais alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui dis « Ben, j'ai pas touché. » Elle me dit « Je savais que tu allais faire ça. » Pareil, je lui ai déjà témoigné de ma foi. Je lui ai déjà dit, en tout cas, j'en avais témoigné à mes collègues et Radio Ballast encore lui avait dit que j'étais chrétien. Elle savait que j'étais chrétien. Elle dit « Je savais que tu allais faire ça. » Et puis après, je me suis rendu compte que tous mes collègues dans toutes les gares de ma région étaient au courant de ça. Tous savent, et ils savent que j'ai renoncé à 10 000 euros. Et tous savent que j'ai renoncé, et des fois, il a fallu que je leur reclarifie avec eux, leur dire que j'ai renoncé parce que je suis croyant, parce que je crois en Dieu, et que je veux plaire à Dieu. Et j'ai pu témoigner, et ça, j'ai pu témoigner à, je ne sais pas combien d'agents, il doit y avoir au moins 150-200 agents à peu près. Juste parce que j'ai décidé de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu me demandait. Non seulement moi, j'étais fier, mais en plus, Dieu a utilisé ça pour être une bénédiction. Ça a changé ma façon de voir mes chefs. J'ai commencé à prier pour eux. J'ai commencé à les aimer. Ça a été quelque chose de vraiment fondamental. Ce témoignage, je le partage assez régulièrement parce que honnêtement, moi, je vous dis, pendant un mois, je me voyais bon chrétien et je pensais faire les choses correctement. J'essayais de pas trop cracher sur eux, j'essayais d'être à peu près bien. Mais je n'avais jamais demandé la vie à Dieu. Et c'est seulement quand j'ai demandé la vie à Dieu, c'est ce qui m'a sauvé. Comme ça, j'ai pu lui plaire. Et c'est ça la route de la sanctification. C'est ça être sanctifié, c'est ça être disciple de Christ. Serge, il faut que je finisse à midi. Moi, midi et demi, 13h. 13h30. Bon, c'est bien. Je sens que vous êtes avec moi, c'est bien. Le meilleur moyen d'être sanctifié, de vivre une vie sanctifiée, c'est de vivre pour l'autre d'abord. C'est d'aimer l'autre. C'est de se sacrifier pour l'autre. C'est de laisser la place aux autres. C'est d'élever l'autre. C'est le meilleur moyen pour être sanctifié parce que du coup, vous êtes obligé de dire non à ce que vous voulez. C'est de mettre des choses en place dans vos vies qui permettent à ce que l'autre soit béni au travers de vous. J'ai un principe et on a un principe avec ma femme au niveau de l'argent. Où régulièrement, alors c'est un principe que j'ai du mal à tenir, mais régulièrement, je me dis, Mathieu, je veux que mon argent serve plus à bénir les autres qu'à me faire du bien à moi. Je veux que mon argent serve plus à faire du bien aux autres. Je veux dépenser plus d'argent pour faire du bien aux autres que pour que ça me fasse du bien à moi. Ça, c'est des principes que j'essaie d'appliquer, que j'essaie de mettre en place dans ma vie pour que je sois sanctifié, pour que l'argent n'ait pas de prise sur moi, pour que je puisse plaire à Dieu, parce que je sais que c'est en donnant qu'on plaît à Dieu. C'est en donnant de l'argent, en donnant du temps, en donnant de nous-mêmes, en sacrifiant, en acceptant des fois d'être un peu percuté. C'est en donnant. Nous ne sommes pas, comme le monde le dit, une société de consommation. Nous sommes et nous devons être une église de donation. Nous ne sommes pas une société de consommation, nous ne sommes pas une assemblée de consommation. Nous devons sortir de ce mode de pensée qui est toujours de consommer, de prendre, de recevoir. Et après, on a tellement les mains pleines qu'on ne sait même plus quoi en faire. Et je dis souvent, des fois, on est tellement consommateur qu'on devient des chrétiens obèses. On a tellement reçu, on a tellement mangé, on a tellement pris. Et on a tellement peu mis en pratique. Quand on est là sur notre chaise et on prend racine, on prend du poids tranquillement. Notre vie spirituelle est pleine de poids. Ah oui, on a reçu. Ah oui, on connaît plein de choses. Ah oui, on connaît bien la Bible. Mais est-ce qu'on la met en pratique? Est-ce qu'on la vit? Est-ce que en ce moment dans nos groupes de maison, on a développé une série qui est sur les premiers pas de la foi. Puis on se disait, mais les anciens chrétiens, ils vont se dire, mais vous fichez de moi. Qu'est-ce que tu vas me raconter à moi qui ai 40 ans de vie chrétienne, les premiers pas de la foi? Ben, ils étaient loin, ils sont loin, mais pas de la foi. Mais ce qu'on s'est dit, c'est, mais est-ce qu'on leur a dit, c'est que les premiers pas de la foi, on les fait. Comme ça, eux peuvent se dire, mais est-ce que ces premiers pas, est-ce que je les ai appliqués pendant mes 40 ans de vie chrétienne? Est-ce que je les ai mis en pratique? Est-ce que je les ai vécus? Est-ce que je vis vraiment sanctifié? Est-ce que vraiment j'ai pris conscience du salut, que j'ai été sauvé? Est-ce que j'ai vraiment conscience de tout ça? Est-ce que je l'ai mis en pratique? Est-ce que j'ai compris que mon rôle était d'aller parmi toutes les nations et d'annoncer l'évangile? Est-ce que j'ai compris que mon rôle était de prier pour les malades? C'est pas qu'au pasteur de prier pour les malades, c'est à chacun d'entre nous. C'est ça ce que fait un disciple. Imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est de vivre toutes ces choses-là. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de le vivre. Moi j'ai envie de le vivre. De plus en plus. J'ai envie de vivre de plus en plus de témoignages, comme je vous ai dit avant. De plus en plus de trucs où j'apprends à dire non. Je renonce à moi-même et je vois Dieu qui bénit autour de moi. Je veux de plus en plus que ma vie soit un témoignage. Pour plaire à Dieu et parce que je plais à Dieu, la gloire lui revient. Et quand Dieu brille, le monde voit. Les ténèbres sont chassées. Amen. J'aimerais terminer juste en vous disant une chose. Romains 3, nous dit « Nul n'est capable de faire le bien qu'il veut faire. » Si nous essayons par nos propres forces, nous n'en sortirons pas. La sanctification sans la justification est inutile. Nous devons d'abord comprendre que nous avons été justifiés, que d'abord c'est Christ qui a fait pour nous, pour qu'ensuite, en le suivant, nous soyons sanctifiés. N'essayez pas d'être parfait, n'essayez pas d'être les meilleurs, n'essayez pas d'être les plus chrétiens. Essayez simplement de faire ce que Dieu vous demande. Essayez simplement de faire ce que Jésus ferait. Essayez simplement de mettre en place ce que Jésus vous demande de mettre en place. Faites simplement qu'obéir. Ne vous compliquez pas la vie. Cherchez pas ailleurs des solutions. Cherchez pas dans un bouquin une solution. Regardez dans votre Bible. Les solutions, elles sont toutes là. Laissez le Seigneur vous travailler. Obéissez-lui. Suivez-le. Vous êtes des disciples. Sur la route de la sanctification. Ne faites pas par vos forces, mais dépendez en toute chose de Christ. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Merci pour chacune des personnes qui est là. Je ne sais pas où ils en sont dans leur vie. Je ne sais pas ce qu'ils vivent. Je ne sais pas ce qu'ils connaissent de toi. Je ne sais pas à quel point ils sont avancés dans leur foi ou pas. Mais Seigneur Jésus, tu nous appelles chacun d'entre nous à te suivre, à te servir et à vivre pour toi, une vie entièrement pour toi, à te dédier nos vies entières. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de poser ta main sur chacune des personnes qui est là ce matin. Père, permets-nous et permets-moi en premier de prendre conscience que j'ai besoin d'être un chrétien actif. J'ai besoin d'être un chrétien sportif. J'ai besoin d'être un chrétien qui ne se suffit pas à juste recevoir, mais qui met en place et qui met en pratique ce qu'il a appris. Seigneur Jésus, permets à chacune des personnes qui est là ce matin de prendre ce péage ce matin, de passer ce péage de la justification et d'entrer et de mettre la marche avant sur la route de la sanctification. Seigneur Jésus, quel que soit ce que tu demandes à chacun d'entre nous, pour certains, c'est peut-être d'abandonner et de rectifier une situation. Pour d'autres, c'est peut-être de renoncer à de l'argent. Pour d'autres, c'est peut-être de renoncer à leurs parents. Pour d'autres, il y a plein de situations possibles. Mais Seigneur Jésus, donne-nous. Et ce matin, nous voulons prendre la décision d'être une église sanctifiée. Une église qui choisit de te plaire. Tu ne nous as pas appelés à être assis sur des bancs ou sur des chaises. Tu nous as appelés à être des chrétiens qui vivons une vie chrétienne, de disciples, tous les jours, pour faire la différence dans ce monde. Merci de donner à chacun, Seigneur Jésus, et je le prie et je l'invoque sur chacune des vies qui est là ce matin, donne à chacun de comprendre à quel point nous avons besoin de mettre en pratique, Seigneur. À quel point la mise en pratique est importante pour nous. Donne-nous le courage de nous mettre en avant. Donne-nous le courage de faire le premier pas dans ta direction. Donne-nous le courage et la force de faire ce que tu nous demandes de faire. Et que nous puissions briller, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas comme une lumière sous un tasseau, mais que nous soyons sur cette montagne et que nous puissions briller dans nos lieux de travail, dans notre maison, dans nos familles, à l'église. Permets-nous de briller. Merci Seigneur Jésus. Et Père, je te remets également tous ceux qui ont besoin de justification ce matin. Tous ceux qui ont pris conscience que leur péché était trop grand, trop gros, trop large, trop moche. Seigneur Jésus, révèle-toi vraiment à eux en cet instant. Révèle-toi à eux et révèle-leur à quel point tu les aimes et à quel point ton sacrifice a pardonné chacun de leurs péchés. Il n'y en a plus un, il n'y en a pas un qui est trop difficile pour toi, qui est trop gros pour toi. Ton sacrifice a lavé chacun et chacune d'entre nous. Et nous le croyons non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous avons bien agi, mais nous le croyons parce que nous avons la foi en toi, Seigneur Jésus. J'aimerais simplement permettre à ceux qui ont besoin de justification ce matin, qui ont besoin de passer ce péage, j'aimerais vous donner l'occasion de mettre votre vie en règle devant Dieu. J'aimerais vous donner l'occasion de dire à Dieu, « Dieu, j'ai compris que mon péché était moche, te déplaisait, que mon péché était grave. » Mais j'ai besoin que tu viennes me justifier. J'ai besoin que mes fautes soient effacées. Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis loin de toi. Je reconnais que je te déplais régulièrement, je reconnais que je fais plein de choses. Je reconnais que ma culpabilité est là, elle éclate aux yeux de tous. Je reconnais que je suis coupable. Mais je reconnais aussi que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin que tu payes le prix pour moi. Si simplement ça, tu as besoin de justification ce matin. Tu as besoin que les preuves qui sont à charge contre toi soient effacées. Je voudrais te permettre de lever ta main là où tu es. En signe. En signe, une main qui se lève, c'est un signe du besoin d'aide. Lève la main et reconnais que tu as besoin d'aide. Tu as besoin de Jésus, vienne t'aider. Une fois que tu l'as levé, tu peux la rabaisser. Merci pour ces mains qui sont levées.